Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir à tout le monde. Bah oui, Radio Canut est diffusé sur toute la planète. Donc je dis bonsoir à tout le monde, évidemment. Donc vous êtes à l'écoute de l'Union communiste libertaire pour l'émission Idées Noires. Et c'est tout à l'heure la reprise. Et donc, rebonsoir, en s'excusant encore une fois de la mauvaise face que nous avons proposée de notre excellent générique. Ça a dû être atroce pour vos oreilles, on s'en excuse, mais ça va être réparé immédiatement et pour la fin de l'émission. Donc, l'émission Idées Noires, composée, construite et tout par des militants de la... De l'UCL, l'Union communiste libertaire. Oh. Je faisais durer un peu le plaisir.
Ouais. Bonsoir à toutes et à toutes. Il y a un petit peu de Larsen, je ne sais pas d'où ça vient. Moi, je le sens un petit peu.
Du Larsen, ouais. C'est autre chose maintenant.
Ouais, bah non, ça a l'air d'être passé. Bonsoir à toutes et à tous.
Ça va être un coup du RN.
Un jeune invité, tu veux dire bonjour du coup ?
Bonjour, je m'appelle Jalani.
Tu veux dire bonjour à qui ?
À Adam, s'il écoute.
Eh ben, on vérifiera ça s'il a écouté. Du coup, ouais, ça sonne un peu, je sais pas ce que c'est, bon, on verra, c'est pas très grave.
C'est peut-être la cassette que je laisse tourner pour avoir la meilleure face, en fait, pour tout à l'heure.
Parce que là, ouvre ton micro, je sais pas, il y a un truc qui... c'est bizarre. Ouais, ça le fait beaucoup même.
Allons, bon.
Tu l'entends toi aussi ?
Alors, attends, voir.
Ouais. On est tous les deux à l'entendre dans le casque, ouais, ça...
D'accord.
Ça grésille à mort, enfin, ça fait un bon petit Larsen.
Je sais pas du tout ce qu'il en est... Je pense que ça doit être parce que la cassette est...
Et coupe le micro pour voir, juste coupe ton micro pour voir si ça change totalement.
Mon micro à moi ? Ouais.
Non, ça le fait toujours, ouais. Bon, on va démarrer, c'est pas grave, en espérant que ça vous gêne pas trop de votre côté. Du coup, pour démarrer, pas trop d'annonces pour ce soir. On va démarrer direct par l'actualité politique. Et elle est centrée, en tout cas, sur ce qui nous concerne ici en France, sur les élections législatives. Et du coup, ce premier tour des élections anticipées qui ont eu lieu ce dimanche 30 juin. Et voilà, je reprends un petit peu un article de l'excellent site Rapport de Force, qui a toujours besoin de soutien pour survivre. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit don. Un don ponctuel ou même un don mensuel pour que ça puisse payer le travail de ces camarades journalistes qui font un boulot irréprochable, en tout cas pour ce qui est des mouvements sociaux. Donc on vous encourage à aller lire déjà leurs articles et aller leur aider si vous le pouvez. Donc déjà un premier point fait par le site Rapport de Force et journalistes, c'est le taux de participation qui a été assez élevé, proche d'une présidentielle. Alors assez élevé, on met toujours des bémols, parce que le taux de participation a été de 66%, ce qui veut dire qu'il y a quand même 33% de personnes qui n'ont toujours pas voté, et ça ne prend pas en compte évidemment les personnes qui ne sont pas inscrites sur les listes électorales. Donc c'est gros, parce que surtout en considérant que les Français sont déjà rendus aux urnes 3 semaines plus tôt pour les européennes, et la participation était donc de 14 points au-dessus du scrutin du 9 juin 2024, qui a conduit à la dissolution de l'Assemblée nationale. Elle est également au plus haut niveau des élections législatives de ces 25 dernières années. Pour trouver un taux de participation supérieur à ce dimanche, il faut remonter au scrutin de 97. Il y avait 68% de participation lorsque Jacques Chirac avait lui aussi dissous l'Assemblée nationale. Ça lui avait aussi pété à la gueule, et là marrant, ça pète aussi à la gueule de Macron, et pas de la manière dont on l'aurait souhaité. Deuxième point pris par l'article, c'est le Rassemblement national que tu appelles toi du coup.
Le Rassemblement des nazes.
Voilà, qui fait nettement plus que le plein de voix. C'est-à-dire que l'alliance du Rassemblement National et d'une partie des Républicains autour d'Éric Ciotti donc arrive en tête du scrutin, vous ne l'avez pas raté, ça 33,15% des suffrages exprimés et quand même 10,6 millions de voix. Ça fait quand même beaucoup. Il enregistre 2,5 fois plus de votes que lors des législatives de 2022, où la participation n'avait pas atteint les 50% et où il s'était présenté sans allié. Mais compte tenu du caractère particulier de ces élections législatives anticipées, dont l'enjeu ressemble à ceux d'une élection présidentielle, un comparatif avec le premier tour de la présidentielle de 2022 semblait plutôt éclairant. Donc cette fois-là, le RN avait fait 8 133 828 voix. Donc comparé à ses seules voix du 30 juin 2024, 9 377 297, que je ne fasse pas une crasuki avec les chiffres, sa progression est de 1,24 million de voix. En ajoutant les suffrages des Ciotti, cette progression est de quasiment 2,5 millions. Donc avec de tels scores ce dimanche, donc l'extrême droite envoie à l'Assemblée nationale déjà 39 candidats dès le premier tour, une situation impensable en 2022. Par ailleurs, le RN sera présent au second tour dans 444 circonscriptions supplémentaires et se retrouve dans 305 triangulaires et 5 quadrangulaires si l'on s'en tient au résultat de, qui était dimanche. Il faut savoir que depuis hier 18h, du coup, on a la liste des candidats et candidates qui se sont désistés. Alors... les consignes étaient les suivantes, en tout cas pour les candidates et candidates du Front, du Nouveau Front Populaire, c'était désistement si le RN était en tête et si la liste du Nouveau Front Populaire était arrivée en troisième position. Donc ça s'est à peu près tenu, à part quelques-uns et quelques-unes qui se sont maintenus. Du côté d'ensemble, c'était beaucoup moins évident jusqu'à hier soir 18h, même si, a priori, il y a quand même un grand nombre d'entre eux et d'entre elles qui se sont du coup désistés quand ils étaient en troisième position et que le RN était en tête.
Donc, pour le Front.
Alors voilà, en appelant plus ou moins au Front Populaire, pour certains ça grattait la gorge. Ça grattait fortement la gorge, notamment si le candidat ou la candidate était investi par LFI ou pas. Mais bon, ça se réglera dans les urnes. Après, reste à savoir si les gens suivront ou pas cette consigne, en tout cas. En tout cas, le nombre de triangulaires a fortement diminué, puisqu'il ne reste plus qu'une centaine. Par rapport au Nouveau Front Populaire, 32 élus au premier tour, en tête dans 156 circonscriptions, avec près de 9 millions de voix, soit 27,75% des suffrages exprimés. Le Nouveau Front Populaire devrait pouvoir prétendre, alors c'est des estimations, c'est toujours à prendre avec des pincettes, entre 130 et 190 sièges. Les sondages sont toutefois donc à prendre avec d'immenses précautions, puisque depuis il y a eu du coup ces désistements et ces triangulaires transformés en duels. Le Nouveau Front Populaire fait toutefois mieux que la NUPES en 2022, qui avait fait 25,78%, même si le taux de participation est différent de celui des législatives d'alors. La gauche unie donc remporte la première place dans 156 circonscriptions avec 32 élus d'office, mais elle se désiste pour l'heure dans 122 autres lorsqu'elle arrive effectivement en troisième position pour faire barrage à l'extrême droite. Au sein de l'Alliance de gauche, donc qui était composée de plusieurs partis, les Insoumis comptent déjà d'ores et déjà 20 députés élus dès le premier tour, les Socialistes 5, les écologistes 5 et les communistes 2. Le numéro 1 du Parti communiste français, Fabien Roussel, a toutefois déjà été battu dès le premier tour face à un candidat RN élu à la majorité absolue. Ça fait un peu mal quand même. Dans le Nord, où ils ont fait quand même carton plein les candidats du rassemblement des nazes, comme tu les appelles toi. Au niveau de la coalition gouvernementale, ce qu'on peut pointe déjà, c'est qu'elle a été complètement désavouée avec péniblement 20,04% des voix. Donc ça regroupe le parti Renaissance, Horizon et le Modem. Seuls deux députés ensemble ont été élus d'office au premier tour. Pour le reste, des candidats ensemble sont qualifiés dans 319 circonscriptions, dont une soixantaine en occupant la première place. Alors que lors des législatives de 2022, ils s'étaient qualifiés dans 417 circonscriptions. D'après les projections, ils étaient 245 députés ensemble, on va dire. Ils risquent d'être entre 60 et 90. Donc on voit bien là l'effet de la dissolution, un peu comme Jacques Chirac en 97, ça lui est revenu à la tête. En 97, c'était plutôt l'Union de la gauche qui est arrivée en tête. Là, c'est plus inquiétant puisque c'est le Rassemblement national. Donc les triangulaires, on en a parlé vite fait, mais effectivement, il y a eu quand même pas mal de désistements jusqu'à hier soir. Alors les Républicains. Donc après la brèche ouverte par Ciotti, du coup c'est quand même un maintien fragile, parce que c'est une première dans l'histoire des Républicains. Donc Éric Ciotti, qui est quand même le patron du parti, on le rappelle, donc avait initié une alliance avec le RN dans la foulée de la dissolution. Et donc 63 candidats avaient été investis dans le cadre de cette alliance, dont une vingtaine seulement déjà engagés en politique sous l'étiquette LR. La quasi-totalité, 60, s'est quand même qualifiée pour le second tour. Et ce qu'on appelle le canal historique et majoritaire des Républicains, rejetant cette alliance, elle obtient 6,6% des voix. soit 4% de moins qu'au premier tour des législatives, donc ça correspond à peu près aux 4% qu'a gratté Éric Ciotti. Et parmi les 101 circonscriptions dans lesquelles des candidats LR ou divers droites se sont qualifiés hier, seule une trentaine y sont arrivés en tête. LR risque donc de voir son effectif de 61 parlementaires s'effriter au vu de la force du RN et de la division créée par l'alliance Ciotti. Et donc la question qu'on peut se poser maintenant, c'est après le 7 juillet, que va-t-il se passer ? Est-ce qu'il va donc y avoir une majorité relative d'extrême droite, c'est-à-dire environ entre 200 et 250 députés d'extrême droite, donc qui n'auront pas la majorité puisqu'il faut en avoir 289, soit une coalition centrale, qui est un peu compliqué à imaginer, avec des députés d'ensemble, peut-être certains des Républicains, peut-être certains du PS, ou une assemblée ingouvernable. Donc lui, Jordan Bardella, le patron du Rassemblement des Nazes, donc, il a martelé encore qu'il ne sera pas Premier ministre sans majorité absolue. Donc il faudrait décrocher donc, ces fameux 289 sièges. Ça va être quand même difficile pour le RN, en tout cas on croise un peu les doigts, mine de rien, parce qu'ils auraient quand même les pouvoirs absolus, ils pourraient faire un peu ce qu'ils voudraient. Mais ce n'est pas impossible au vu des désistements annoncés pour lui faire barrage. Ceci étant, après le 7 juillet, les alliances LR-RN vont être hautement stratégiques pour l'extrême droite à l'Assemblée nationale, car le RN n'exclut pas de gouverner s'il trouve des soutiens pour construire une majorité relative. Reste à savoir si la ligne Ciotti peut embarquer davantage de députés LR dans son sillage. Extrêmement affaiblie par cette dissolution et ses législatives, la minorité présidentielle commence de son côté à imaginer la constitution d'une nouvelle coalition centrale pour sauver les meubles. Dans son discours, dimanche soir, Gabriel Attal a proposé de construire des majorités de projets et d'idées au sein de la nouvelle assemblée. Mais qui pour répondre à un tel appel à l'heure où le camp macroniste, critiqué de toutes parts, ne représentera a priori que la troisième force parlementaire? Et ils ont déjà dit effectivement qu'ils n'allaient pas s'allier avec des parlementaires LFI. Il est probable aussi qu'aucune majorité ne puisse être obtenue par le jeu des alliances ou des coalitions, auquel cas l'Assemblée nationale risque d'être ingouvernable. Pour faire passer les textes de loi de son gouvernement sans encombre, le Premier ministre ou la Première ministre doit pouvoir s'appuyer sur sa majorité au Parlement. Sans majorité claire, les oppositions parlementaires peuvent aisément adopter des motions de censure et celles-ci provoquent le renversement du gouvernement. Donc ça ne s'est jamais produit depuis très 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 longtemps. Ça ne s'est jamais arrivé sous le gouvernement Macron-Borne en tout cas. Il y a eu plusieurs tentatives, mais il n'y a jamais eu de motion de censure votée par une majorité de députés. Mm-hmm. Et en outre, aucune nouvelle dissolution de l'Assemblée n'est possible avant au moins un an, soit au mois de juillet 2025. Même une démission d'Emmanuel Macron, ce qui est quand même fort improbable, suivie d'une présidentielle anticipée, ne remettrait pas ce compteur à zéro. Donc il faudrait quand même attendre un an de toute manière, quoi qu'il arrive.
Il y a le 49-3, non ?
Oui, voilà, pour toujours, mais après c'est le Premier ministre du coup qu'on engagera. Mais si tu fais le 49-3, donc t'engages la responsabilité de ton gouvernement, et donc si jamais il y a une motion de censure qui est votée à la majorité, ça renverse le gouvernement, et donc on repart avec un nouveau gouvernement, etc. etc. Qu'en est-il du coup des contestataires de la France insoumise ? C'est un match dans le match qui s'est joué entre Terre insoumise à l'occasion de ces élections législatives. Plusieurs contestataires de la ligne imprimée par Jean-Luc Mélenchon avaient été débarqués des investitures de la France insoumise, malgré que l'accord express conclu entre les formations du nouveau Front populaire est prévu de reconduire les députés sortants. Mais Alexis Corbière, Raquel Garrido, Hendrick Davy et Daniel Simonet se sont maintenus dans leur circonscription face à des candidates et candidats nouvellement investis par LFI. Trois d'entre eux s'imposent au sortir du premier tour, Alexis Corbière devant Sabrina Ali Ben Ali de presque 4 points en Seine-Saint-Denis, pendant qu'Hendrick Davy bascule juste devant Alain Poplar avec seulement 565 voix d'écart. Par contre, le résultat est sans appel dans la 15e circonscription de Paris. Daniel Simonet, 41%, écrase Céline Verzelletti, 22%, qui avait dû démissionner de ses mandats confédéraux de la CGT pour mener la bataille fratricide pilotée par la direction de LFI. Seule Raquel Garrido est largement battue par le candidat officiel LFI, Ali Diouara, en Seine-Saint-Denis, 23 contre 31. C'est la seule du coup à s'être retirée du coup pour ce deuxième tour, Raquel Garrido. Et quant à François Ruffin, qui s'est écarté publiquement avec fracas de la ligne Mélenchon et pourrait faire les frais d'une défaite dans sa circonscription de la Somme, il est en ballotage défavorable face au Rassemblement National. Arrivé second et en recul par rapport à 2022, il bénéficiera cependant du désistement de la candidate Renaissance arrivée en troisième position. La seconde mi-temps commence donc par rapport aux petites guéguerres internes à LFI. Reconquête. Reconquête a été grand remplacé par le Rassemblement National. Signe que les électeurs d'extrême droite imaginent la victoire de leur camp possible pour la première fois depuis 1945. La dernière fois qu'il y a eu un gouvernement d'extrême droite, c'était pendant Vichy. Le vote utile, entre guillemets, a joué à plein dans leur rang à l'occasion de ce premier tour des législatives. Le parti d'Éric Zemmour n'enregistre que 240 000 voix, 0,75% dans 330 circonscriptions sur 577 dans lesquelles il a présenté un candidat. Lors des législatives, législatives de 2022, malgré une participation nettement inférieure, le parti d'Éric Zemmour cumulait 4 fois plus de voix, presque 1 million, 4,24%. Et il y a encore 3 semaines, lors des élections européennes, Reconquête affichait 1,35 million de suffrages, malgré une assez faible participation de 151,5%. Deux candidats sur lesquels les projecteurs aussi ont été tournés, Raphaël Arnaud et Philippe Poutou. Alors Raphaël Arnaud et Philippe Poutou, investis par la France Insoumise sous la bannière du Nouveau Front Populaire, ont été utilisés comme des épouvantails par une grande partie de la classe politique lors de ces 3 semaines de campagne. Le premier pour une supposée fiche S, liée à son activité de porte-parole au sein de l'organisation antifasciste Jeune Garde. Le second pour les positions de son parti, le nouveau parti anticapitaliste sur la situation en Palestine et les attaques du 7 octobre. Bruno Le Maire, ministre de l'économie, est même allé jusqu'à propager le mensonge selon lequel Philippe Poutou aurait été condamné pour apologie du terrorisme. Dans leur circonscription, ces candidats ont tous deux eu à faire face à des candidatures dissidentes de gauche. Ils sont pourtant parvenus à se qualifier pour le second tour. Pour Philippe Poutou, la bataille sera rude, mais il dit, alors c'est une citation de sa part, hein, mais comme on est un peu dingo, on y croit, sourit-il sur ses réseaux sociaux. Ayant réuni 18,7% des suffrages, le candidat se trouve opposé au député RN sortant, Christophe Barthès, qui a frôlé la majorité absolue au premier tour, 49,3%. Le candidat dissident de gauche est éliminé avec 12,7%, tout comme le macronisme 16,8%. Pour Raphaël Arnaud, la partie est mieux engagée. Dans la première circonscription du Vaucluse, le RN caracole en tête à 34,6%, mais le porte-parole de la Jeune Garde réunit 24,7% des suffrages et pourra profiter du report des voix du candidat socialiste dissident qui avait réuni 18,2% des voix au premier tour, ce qui ferait à peu près 42%, donc à voir si ça suffit ou pas. Donc voilà pour cette petite première page, c'est quelle heure ? 20h17, on va peut-être faire une petite pause musicale, je reviendrai dessus après sur des communiqués de l'UCL et on vous propose une première petite pause musicale d'actualité avec une reprise et vous allez sûrement reconnaître ça tout de suite. On y go ? C'est pas.
Le Rassemblement National. We'll be right back.
Et rebonsoir, vous êtes toujours à l'écoute d'Idées Noires, l'émission des militantes et militants de l'Union communiste libertaire. Et après ces petites pauses musicales bien d'actualité, on vous propose de passer aux luttes sociales, parce qu'elles ne s'arrêtent pas non plus coup d'un seul.
C'est vrai, elles ne s'arrêtent pas et elles ne vont pas s'arrêter encore. Du boulot pour Daniel, évidemment. du boulot, c'est un vrai plaisir de vous compter un peu toutes ces petites et grandes et moyennes, ou tout ce que vous voulez. Enfin, ces luttes, il n'y en a pas des grandes, des moyennes, que je l'avais déjà dit. Les luttes sociales aujourd'hui, on va commencer par Beauvais dans l'Oise. C'était le 18 juin avec une grève illimitée chez Corolis, une deuxième journée, donc, et reconduction aussi le 21 selon l'intersyndicale. Et ça pourrait durer jusqu'au 27. Plusieurs revendications, les salaires évidemment, le climat social délétère et un cadre à sortir, on veut dire un chef à sortir du cadre, donc une éviction. La grève a fait le plein de grévistes, car rien de favorable lors des NAO. Négociation annuelle obligatoire, je ne le redirai plus. Blocage de la direction, aucun bus en circulation, 97% de grévistes. La PPV aussi, c'est la prime de partage de la valeur. Corolis, service de transport public du Beauvaisis. Et c'est Transdev qui tient le volant, évidemment. La grosse Transdev, comme toute bonne multinationale qui a pris 8 milliards en chiffre d'affaires en 2022, enfin qui a engrangé 8 milliards de chiffre d'affaires en 2022. Marseille maintenant avec une reprise du combat des salariés de Laser Propreté, c'était le 19 juin. Société qui a le marché du nettoyage du métro marseillais et de la gare Saint-Charles. Alors problème, il est de taille, puisque le paiement des salaires qui ne s'effectue pas. 200 personnes employées par Laser au nettoyage des stations RTM et SNCF qui exigent le paiement et le respect d'avenants au contrat d'il y a tout juste un an. Selon CAT CRT, c'est CAT Propreté, c'est le syndicat de la propreté et de l'intersyndicale, les entrevues avec la direction n'ont donné quoi que ce soit de favorable pour les travailleurs et les travailleuses. La grève a donc été reconduite au 24 juin. Les salaires sont impactés, évidemment. Les sommes sont quand même importantes, manquantes donc au salaire de 200 à 1600 euros, alors il doit y avoir des primes là-dedans à gogo qui n'ont pas été versées. Les salariés Laser du port maritime sont invités du moins à rejoindre le mouvement. Il y avait une assemblée générale pour conclure tout ça le 24 juin pour les suites à donner au mouvement. Poitiers, c'est dans la Vienne, c'était le 21 juin. Pour une polyclinique, alors avec une fin de conflit là après 4 jours pour 60 salariés la lutte a porté ses fruits suite à divers rassemblements et actions. La direction a proposé des solutions aux revendications sur les conditions de travail, les retenues sur salaire des participants, donc des grévistes au conflit, seront étalées sur 3 mois. L'intersyndicale a constaté un ralentissement donc de la participation après 4 jours. Je cite là donc l'intersyndicale, on essaye de tenir financièrement. Voilà un peu le mal aujourd'hui pour les grèves. Penly, c'est en Seine-Maritime et c'est un appel sur la centrale nucléaire, un appel de la CGT Mines et Énergie. C'était le 19 et le 20 juin. Alors l'objet évidemment du courroux là, des salariés, ce sont les salaires et précisément pour qu'ils soient meilleurs pour les travailleurs et les travailleuses, et les arguments qu'on a mis en place donc de barrages filtrants aux abords de la centrale. Les revendications, c'est 9 99% de mieux pour tous et toutes et doublement des salaires sur une carrière. La cinquantaine de participantes, quand même, c'est pas négligeable. Négociation donc sur les accords de branche en cours et qui concernent les grilles de salaire à la baisse selon la CGT. Inégalité entre, et puis l'inégalité des salaires entre hommes et femmes. Grève aussi, enfin bon, je continue avec la grève des cliniques, c'était les cliniques privées hein, qui étaient en combat, les employés du moins, hein, le 18 juin, avec une mobilisation des salariés de la Fédération de l'hospitalisation privée en un mouvement de grève nationale qui ont eu un soutien inédit en la personne de la ministre de la Santé qui s'est prononcée en faveur de l'application de l'avenant 33, prévoyant la revalorisation des salaires dans ce secteur, qui a été immédiatement suivi des faits. Heureuse fédération. À Nîmes, dans le Gard, mi-juin, le 18 exactement, avec une grève en clinique, donc je vais en citer quelques-unes encore, la clinique des Franciscaines, qui était une grève, où il y avait une grève suite à des accords salariaux non respectés. Alors, faut pas faire ça, les patrons, là, non, c'est pas bien. Donc, le personnel soignant et administratif, ont stoppé toutes les activités avec leur syndicat, la CFDT du groupe Elsan. Pourtant, les augmentations avaient été négociées, donc des accords avaient été même signés entre l'État, je l'ai dit tout à l'heure, et la Fédération de l'hospitalisation privée. L'argent destiné aux hausses de salaire a été reversé à d'autres buts, selon le CSE, c'était quand même, il y avait des montants pour les salaires de 150 à 300 euros. Limoges, c'est dans la Haute-Vienne, alors c'est cette fois sans transition. Après la grève, enfin sans transition, après la grève en clinique, vous allez voir, j'espère que ça ne va pas vous faire rigoler, ben c'est une grève à l'abattoir. Je dis bien, c'est sans transition, hein, ça n'a rien à voir. Donc ce 21 juin, c'était l'abattoir de la ville de Limoges avec un personnel qui dénonce le manque à gagner de l'entreprise qui met en péril l'équilibre des comptes selon le syndicat FO. Cinquantaine de salariés grévistes comme un premier signal envers la direction et aussi aux clients de l'abattoir qui sont enfin et puis aux grossistes aussi il y a plusieurs sociétés évidemment. Alors selon FO la perte est de 100 000 euros par mois. Les clients refusent la cause c'est que les clients donc les grossistes et donc les grosses sociétés qui viennent se servir refuse de payer la hausse des taxes au kilo, soit 12 centimes d'euros, et ceci depuis janvier 2024, ce qui met en danger les emplois, il y a 75 salariés, et un déficit de près de 1 million d'euros pour l'abattoir. Alors pour le syndicat, c'est tout à fait un modèle de dégraissage, si on ose dire, on est dans l'abattoir, hein. Ils savent de quoi ils parlent, sur les emplois, crainte de licenciement et à terme même une fermeture de l'établissement. À Beuville maintenant, dans la Somme. À Beuville dans la Somme, c'était le 18 juin. Alors c'est sans plaisanterie encore une fois aucune. Hein, ça s'est trouvé comme ça. Bon voilà. Après les bouchers, je reviens au personnel de la clinique Sainte-Isabelle qui dénonce la non-application d'un avenant signé en septembre 2023 concernant une nouvelle classification des salaires. Une manif de 60 personnes devant l'établissement pour chose promise, c'est-à-dire la venant 33, chose due, ce 18 juin était une journée nationale des établissements de santé privés. C'est la CFDT qui tenait la tête du mouvement et qui collectait donc l'impatience et le mécontentement des personnels de santé et exigeait l'application immédiate de l'avenant au 1er janvier 2024, dont une clause a été soumise à un financement public. Faut savoir pour une mise à niveau avec le service public, puisque les salariés du service public, des hôpitaux, du service public, de la santé, touchent apparemment plus d'argent que ceux du privé. Est-ce que j'ai pas oublié ça aussi à Poitiers, à une polyclinique, fin de conflit après 4 jours pour 60 salariés qui a porté ses fruits suite à divers rassemblements et actions. La direction a proposé des solutions aux revendications sur les conditions de travail, les retenues sur salaire. Les participants au conflit seront. Ah bah oui, je le dis.
Bah alors. Là que je perds. On se mélange ses fiches.
Bah je mélange mes fiches. Et bah voilà. Alors donc la dernière pour cette première page, bah c'est dans les ports. Les ports maritimes, les ports même fluviaux, je crois bien, étaient impliqués aussi, de France, qui était en lutte, je l'ai dit il y a la semaine dernière, ou il y a 15 jours, que ça avait commencé, la CGT, ports et docks, en fait, et autres syndicats ont suspendu finalement le mouvement pour garantir ce mouvement qui était en place de grève longue pour le mois de juin, pour garantir donc la retraite à 60 ans pour les dockers et travailleurs portuaires. La grève avait débuté donc en février, elle avait continué en mai et en juin, tout le mois de juin, je l'avais cité les mots, les jours, etc. C'est un coup d'arrêt brutal dû au manque d'interlocuteurs. Bah oui, tout le monde a foutu le camp avec la dissolution. Alors le ministère des Transports qui semblait faiblir sur les promesses de Emmanuel Macron, eh bien les engagements de ce dernier, donc du président de la République, à l'application à leur profession, donc 60 ans. Pour les dockers, la CGT Port et Dock a proposé de revenir sur le front, si je dis, des luttes le 11 et 12. C'était une proposition du 11 et 12 06 juin pour une AG pour une reprise à la rentrée, donc au mois de septembre. La retraite donc à 55 ans aussi. Il n'y avait pas que la retraite à 60 ans. Il y avait la retraite à 55 ans pour les métiers pénibles.
Exact. Ouais.
Donc à suivre en septembre, ouais. À la rentrée, on aura du boulot. 48 heures de grève déjà actées les 26 et 27 septembre. Décision suite à la dissolution macronique.
Oui, voilà. Et selon le climat politique, on verra ce que ça peut donner. En tout cas, ça peut être dans le truc.
Dissolution macronique, j'ai dit.
Oui, tout à fait. Macronique. Bon. Allez, oui, un petit mot. Voilà. On va passer à une deuxième page. Tu veux dire quoi, toi ?
Je voulais dire que la retraite à 10 ans, ce serait mieux.
Ah, à 10 ans carrément. Ah, bah là, oui, bah on y va. Allez, tu ferais quoi après ?
Banco,
tu t'arrêtes du coup, tu t'arrêtes en CM1, c'est ça ?
Ouais.
C'est fini ? Ok. Pour poursuivre toujours sur la même thématique de tout à l'heure, sur les élections, je vais vous lire le dernier communiqué de l'Union communiste libertaire au niveau fédéral. L'heure est grave. Cette campagne législative impromptu a confirmé le RN fascisant comme nouveau centre de gravité de la droite française. S'il arrive au pouvoir, il faudra lui opposer un front social, antiraciste et de classe. Mais pour l'heure, le nouveau front populaire nous apparaît comme la seule force capable de résister dans les urnes au RN. C'est pourquoi, toujours entre guillemets un sans illusion ni scrupule, on votera NFP pour bloquer l'accès du RN à Matignon. On l'avait déjà dit du premier tour, l'UCL appelait aussi à se rendre aux urnes, ce qui est plutôt une position... inhabituel en tout cas, mais on voit qu'on n'est pas les seuls à le faire. On voit même des individus qui étaient plutôt Yanis Yuluntas, pour pas le citer, réalisateur de films qui vit entre la France et Athènes, voilà, qui a pris aussi position en tout cas individuellement en disant que lui aussi, même s'il salissait les mains, qu'il fallait voter parce que il n'y avait pas le choix en tout cas sur ces élections là et qu'après on continuerait la lutte dans la rue et ailleurs. La dissolution de l'Assemblée, coup de poker désespéré d'un président au bout du rouleau, a provoqué une accélération de la recomposition de la droite française. Les masques tombent et c'est pas beau à voir. La Macronie paniquée, sentant le sol se dérouper sous ses pieds, n'a cessé de renvoyer dos à dos les extrêmes, entre guillemets. Son président ne se contente plus de calquer les thématiques du RN, il en a repris même le langage, en qualifiant par exemple d'immigrationniste le nouveau Front Populaire, dont le programme économique serait d'ailleurs, entre guillemets, quatre fois pire que celui du RN, et en jouant sur des paniques morales réactionnaires sur l'immigration et les personnes trans. Macron aura attendu le lendemain du premier tour pour concéder du bout des lèvres que le RN était plus dangereux que le nouveau Front Populaire, mais le mal est déjà fait. Quant aux gaullistes, les LR, ils sont voués à devenir un simple parti d'appoint. L'appoint du RN, après avoir été l'appoint de la Macronie, parions qu'Éric Ciotti, par sa brusque allégeance à Marine Le Pen, n'aura fait que devancer les autres dirigeantes et dirigeants d'un parti depuis longtemps engagé sur la pente de la droite extrême. La recomposition politique entre les partis de droite, Renaissance et LR, et l'extrême droite, RN et Reconquête, va se poursuivre à marche forcée autour d'un dénominateur commun. Pour masquer la parenté de leur politique économique et sociale désastreuse, ces partis vont cogner sur des boucs émissaires, personnes LGBTI, musulmanes, noires, arabes, militantes et militants écolos, ultra-gauche entre guillemets, etc., accusés de tous les maux. Face à cette convergence réactionnaire, nous réaffirmons que l'alternative de fond et de long terme, c'est le mouvement social, les luttes collectives pour défendre nos intérêts de classe. Combattre ensemble les politiques antisociales du futur gouvernement, quel qu'il soit, sera le meilleur levier pour détacher des pans entiers de la population de l'influence du RN. Pour le discréditer, le nouveau Front populaire, la Macronie et le RN se sont acharnés à le taxer d'antisémitisme et à le classer extrême-gauche. Dans le premier cas, c'est une hypocrisie écœurante. Oui, on trouve parfois au NFP des discours minimisant l'antisémitisme ambiant, et il ne faut rien céder sur ce point, notamment les propos de Mélenchon. Mais en l'occurrence, il s'agit surtout pour le camp Renaissance LRRN de criminaliser le soutien d'une partie du nouveau Front populaire à la Palestine. Dans le second cas, qualifier le nouveau Front populaire d'extrême-gauche relève de la crétinerie ou de la blague, tant son programme est d'un réformisme timide. Essentiellement la protection des libertés publiques, des réglages fiscalistes, des promesses de stopper la casse sociale, retraite, assurance chômage, mais pas de réforme structurelle, aucune nationalisation stratégique par exemple, ni dans les transports, ni dans l'énergie, ni dans la chimie pharmacie. Les capitalistes peuvent dormir tranquilles, ils n'ont rien à craindre de la règle verte promise par le nouveau Front populaire. Il s'agit d'un programme d'union antifasciste comme l'était celui de son prédécesseur de 1936. On n'en attend pas davantage à vrai dire. Comme en 1936, avec la grève générale et les occupations d'usines, les vraies conquêtes sociales se feront sans lui, voire malgré lui. Mais pour l'heure, nous appelons tout notre camp social à voter pour le nouveau Front populaire, là où il est présent au second tour, pour empêcher le RN d'accéder à Matignon. Donc ça, c'était le communiqué de l'UCL du 1er juillet 2024. Et je vous lis aussi, pour suivre, celui qui avait été fait, du coup, juste avant la Pride, la marche des fiertés qui avait lieu à Paris le week-end dernier. Le RN, ennemi mortel des personnes LGBTI. L'accession du RN au pouvoir serait catastrophique pour les droits des femmes et des personnes LGBTI. Bien que l'extrême droite, avec le RN en tête, prétend avoir renoncé à certaines de ses positions traditionnalistes, au point de s'accaparer les suffrages des femmes et de compter dans ses rangs le plus gros contingent d'élus gays suite aux élections législatives de 2022, la réalité est tout autre. Transphobie, conception traditionnelle de la famille, opposition à la PMA, le RN est et reste l'ennemi mortel des personnes LGBTI. Partout où elle se trouve au pouvoir, l'extrême droite met en place des politiques discriminatoires, met en danger les libertés fondamentales, laissant s'installer un climat de violence sociale envers les personnes LGBTI. Certaines des réalisations de l'extrême droite européenne comprennent par exemple des zones entre guillemets sans idéologie LGBTI en Pologne, ou le démantèlement des droits parentaux en Italie, ou encore la loi interdisant entre guillemets la promotion de l'homosexualité en Hongrie, ou encore, concernant les droits des personnes LGBTI, les eurodéputés RN ont voté contre ou se sont abstenus sur 8 textes visant à punir les crimes homophobes au Parlement européen, ont voté contre un texte appelant les États membres à interdire les thérapies de conversion en mars 2018. Parmi les 34 députés français s'y étant opposés figuraient 16 députés RN, ont unanimement voté contre un texte alertant sur les discours de haine à l'encontre des personnes LGBTI dans l'Union européenne en 2019, ont voté à l'unanimité contre une résolution dénonçant les violations des droits des citoyens et citoyennes LGBTI en Hongrie en 2021. Ils ont aussi voté contre une déclaration proclamant l'Union européenne comme une zone de liberté LGBTI en mars 2021, ont refusé de voter pour une résolution alertant sur la multiplication des crimes homophobes dans l'UE après le meurtre de 2 hommes dans un bar gay à Bratislava en Slovaquie en octobre 2022. Et à l'échelle nationale, à l'Assemblée nationale, les 89 députés RN élus en 2022 n'ont pas brillé pour leur soutien aux femmes et aux minorités de genre. En juillet 2023, à peine il y a un an, le groupe Rassemblement National est le seul à voter contre une proposition de loi visant à renforcer l'accès des femmes aux responsabilités dans la fonction publique. Sur les 36 députés présents, 35 votent contre et un élu s'abstient. Toujours en juillet 2023, le député RN Julien Odoul dépose une proposition de loi visant à interdire aux personnes transgenres le droit de concourir dans les compétitions sportives dans la catégorie de leur genre. Et lors du vote au Congrès sur le projet de loi constitutionnel inscrivant l'IVG dans la Constitution, le RN est le groupe qui vote le moins pour le texte. 12 députés votent contre, 20 s'abstiennent et 11 sont absents. En avril 2024, la députée RN Joëlle Mélin a déposé une proposition de loi visant à interdire aux mineurs trans le droit de transitionner et ses homologues au Sénat ont voté pour une proposition similaire portée par le LR. Toutes ces réalisations ne sont qu'un avant-goût de la politique du RN que le RN pourrait mener à l'encontre des LGBTI. En s'inspirant de ces modèles européens que sont Orban ou Meloni, le RN détruira un à un nos droits arrachés par la lutte. Abrogation du mariage et de l'accès à la PMA pour toutes, rétablissement des thérapies de conversion, négation des droits des personnes trans, etc. Donc face à la menace existentielle que représente l'extrême droite pour toutes les minorités, il est plus que jamais important de faire front. Organisons-nous, mobilisons-nous, aujourd'hui comme demain, que vive l'antifascisme et la lutte contre l'extrême droite. Et pour la deuxième petite pause musicale, je voulais vous proposer au départ un titre qui était assez attendu. Un titre de rap, voilà, qui était sorti, qui était annoncé en tout cas comme sorti, un titre qui portait un joli nom, No Pasaran. C'était une belle idée, mais on vous le passera pas parce que c'est un peu viré au désastre. C'est sorti du coup lundi, c'est orchestré par Corée, et donc 20 artistes rap se sont relayés sur plus de 9 minutes de prod pour dire leur haine du Rassemblement National. Il faut se rappeler, alors moi je m'en rappelais bien, j'étais au lycée à l'époque. L'idée était bonne et cela faisait plusieurs années qu'elle était attendue par les activistes de cette culture historiquement engagée dans les luttes sociales et notamment l'antiracisme. Beaucoup se souviennent de 11 minutes 30 contre les lois racistes sorties en 1997 au moment des lois restreignant le droit d'asile et d'accueil des étrangers, comme le rappelait l'introduction de Jean-François Richet, je vous la redis parce que quand même ça pesait un petit peu. Loi Defferre, loi Jox, loi Pasqua ou Debré, une seule logique, la chasse à l'immigré. Et n'oublie pas tous les décrets et circulaires, ne pardonneront jamais la barbarie de leurs lois inhumaines. Un État raciste ne peut que créer des lois racistes. Alors assez de l'antiracisme folklorique et bon enfant dans l'euphorie des jours de fête. Régularisation immédiate de tous les immigrés sans papier et de leurs familles. Abrogation de toutes les lois racistes régissant le séjour des immigrés en France. Nous revendiquons l'émancipation de tous les exploités de ce pays, qu'ils soient français ou immigrés. C'était une belle mise en lumière des difficultés politiques et sociales, fidèle à l'esprit rapologique initié par label Cercle Rouge et White and Spirit Production avec le réalisateur donc Jean-François Richet et DJ Madge à l'orchestration. Donc tout le monde attendait de pied ferme hein, ce rap français pour qu'il honore sa tradition antiraciste, sauf que dès l'annonce sur les médias spécialisés, des questions se posent. 20 artistes seulement sur la somme importante d'artistes rap à disposition, aucune femme et une date de sortie après le premier tour. Par ailleurs, les fonds ne sont pas reversés à une association qui lutte contre le racisme, mais à la Fondation Abbé Pierre, dont la raison sociale est la lutte contre la précarité. Cette organisation fonctionne à partir de donations privées et non de subventions publiques. En effet, une fondation se distingue en ceci d'une association que ses fonds proviennent de grands donateurs, autrement dit de grandes fortunes. Une association, en revanche, est à but non lucratif, comme le précise la loi régissant les associations de loi de 1901. Donc, premier paradoxe, pourquoi cette fondation et non pas une association antiraciste ? Donc, tant que les plus grands donateurs français de la Fondation Abbé Pierre, certains votent RN justement. Le calendrier aussi interroge, pourquoi le sortir le son au lendemain du premier tour, quand un des enjeux de la campagne était d'appeler au vote massivement dès le premier tour. Je ne vous lirai pas le reste, vous pouvez le lire sur les blogs de Mediapart, sur le nom de Benjamin Veil 2, c'est l'avatar, vous le cherchez, vous verrez, parce que le clip en fait est truffé de propos sexistes, complotiste, antisémite. Donc il était hors de question, bien évidemment, de le passer ce soir. Oui, tout à fait. Et à la place, on vous propose un autre titre assez court que vous reconnaîtrez. Ça vous préviendra une nouvelle fois si jamais ils arrivent au pouvoir.
Ça marche pas.
Ça va venir. Pourquoi ça marche pas? Toujours pas?
Petite.
On le remet.
Dans un pays extrême droite, on se torche avec les doigts. Y'a plus d'urbain pour ça. Dans un pays d'extrême droite, on s'inscrit pas aux syndicats. Les syndicats, y'en a pas. Y'a plus de pauvres, y'a juste l'État et les autres. Si t'es pas de la bonne couleur, t'es transparent. Dans un pays d'extrême droite, la justice porte le képi, même le mort au coin de la rue. Dans un pays d'extrême droite, on y parle beaucoup de Dieu, parce que ça fait longtemps qu'il a quitté les lieux.
On vous aura donc prévenu cet excellent titre des Frères Misère avec Mano Solo qui date, mais qui est malheureusement une nouvelle fois d'actualité. Et donc pour le dernier petit quart d'heure qui nous reste pour cette émission, donc on l'avait pas dit tout à l'heure, mais c'est la dernière émission de avant la petite pause estivale a priori.
Oui,
donc
oui.
Voilà, ouais.
Peut-être mercredi.
Ah bon, on verra du coup. Alors on verra. Bon, voilà. Vous savez que si on n'est pas la semaine prochaine, c'est que c'était la dernière aujourd'hui. Et entre-temps, on en fera une la semaine prochaine. Et ben, ça pourrait être intéressant quand même de la faire, parce qu'on aura donc les résultats de ces fameuses élections. On pourra faire un petit point d'actualité dessus. Et donc, avant de finir, en tout cas, cette émission aujourd'hui, on va passer à une deuxième page de lutte sociale avec toi.
Oui, tout à fait. Alors donc, je vais déjà commencer par un anniversaire. Je l'avais fait il y a 2 semaines à propos des Fralib qui avaient fêté un certain nombre d'années. Là, je me rappelle plus combien que c'était. 10 ans, je crois, ou plus, non ?
Peut-être, ouais.
Oui, 10 ans, oui. Enfin, bon, bref. Eh ben là, c'est un autre anniversaire de 10 ans également. Alors, je dis bon anniversaire aux salariés de la biscuiterie Jeannette du Calvados à Colombelles exactement, juste à côté de Caen, pour les 10 années après sauvetage de 2013, après une fermeture, une lutte très vive des employés, 344 jours quand même de grève, de blocage. En 2015, il y avait une issue, c'était un premier repreneur, on va dire, parce que l'aventure n'était pas terminée. Puis en 2019, avec un autre repreneur, enfin c'est une société en fait qui n'a vécu que sur des repreneurs depuis pas mal d'années. La lutte, mais enfin là maintenant ça y est, apparemment c'est stabilisé. Donc la lutte avait donc obligé à occuper nuit et jour contre les huissiers et les gendarmes. Alors quand je dis que cette boîte a vécu avec pas mal de repreneurs, puisqu'elle est née déjà en 1850, hein, elle a été créée, hein, donc voilà. Donc aujourd'hui c'est 24 salariés qui produisent, alors qu'à une époque ils étaient une bonne cinquantaine, alors qui produisent des madeleines, et puis Madeleine, elle aime bien ça. Le chiffre d'affaires 2022 est de 3 530 000 euros, alors ce qui leur convient largement d'ailleurs. Elle est une entreprise du patrimoine vivant. Elle a été nommée, hein, comme ça, distinction gagnée par donc les salariés et la CGT aussi qu'il faut nommer, et un financement participatif. Et aujourd'hui, elle est devenue donc la société Jeannette 1850. Donc, bon anniversaire à ses camarades de lutte. On va rester dans le Calvados, tiens, précisément, avec Saint-Aignan de Craménil. C'était le 25 juin, avec 15 téméraires grévistes, c'est les salariés mécontents de la et mécontentes d'ailleurs aussi de la société Sapient qui fait dans les activités d'assainissement. 70 à 80 salariés, donc 15 téméraires qui montrent une colère à propos d'accords lors des négociations annuelles obligatoires d'avril pour 1% de mieux sur les salaires, alors qu'eux exigeaient 3 et 4%. Ils exigeaient également une prime trimestrielle convenable, puisque celle en poste, donc en activité, on va dire, et qui se volatilise malgré les bons résultats de la société, une mutuelle aussi qui ne prend plus les conjoints et conjointes, une participation donc aussi au rabais, donc suffisant pour une grève avec la CFDT et la CFTC. Alors cerise sur le gâteau, 3 ou 4 favorisés dans cette société qui se partagent un bénéfice à 1,7 million d'euros. La société appartient à Wimberg Capital Partner, la messe est dite. Alors, ensuite, je vais aller sur Paris, là, le 26 juin, en grève depuis le 20 juin. 9 travailleurs sans papier sur 13 du groupe et entreprise de nettoyage H.net même, pour leurs conditions de travail, soutenues par le syndicat CNT-SO, Solidarité Ouvrière. Ils se sont postés devant l'entreprise dans le 15e arrondissement. Une fois de plus, le droit du travail n'est pas respecté. La direction de H.net a barricadé l'entrée de l'établissement. Donc ils sont super tranquilles, ces gens-là. Contrat de travail illicite, temps de travail, c'est 7 jours sur 7, heures supplémentaires non payées, etc., etc. La liste est longue. Alors, pas de réponse, il n'y a pas eu de réponse donnée de la direction au syndicat. Cette direction qui nie l'emploi de personnes sans papier et demande et les demandes de régularisation dont elle devrait s'occuper. Et ça continue, on pensait que c'était arrêté. Plébène maintenant dans le Finistère, le 27 juin avec le labo Eurofin, les labos Eurofin de Bretagne, donc 41 sites bretons, c'est Eurofin Labor... Eurofin Labazur Bretagne. Alors ce sont les départements du Finistère, du Morbihan et de la Côte d'Armor qui étaient en grève, les personnels. Appel de la sur un appel de la CFDT, rassemblement à Plébène pour des revalorisations salariales pour ces salariés de la santé et conditions de travail, et qui signale aussi un effectif en diminution, non remplacement par le non remplacement des départs, et toujours bien sûr plus de travail, plus de corvées pour ceux qui restent, ceux et celles qui restent. Un grand classique en fait dans l'histoire. Donc une centaine de salariés ont suivi l'appel suite à des NAO laborieuses pour la revalorisation des revenus à hauteur de 8% et aussi de la fameuse valeur de travail partagée. Alors reprise de la, il y a eu une reprise quand même de l'activité le 1er juillet sans les 8%, mais avec une revalorisation de l'ancienneté selon le syndicat donc et la convention collective dans les labos extra-hospitaliers. Et il y avait eu quand même aussi, il faut le préciser, une manifestation d'une centaine de salariés. Dans la Sarthe, c'était ce 24 juin avec une grève des centres postaux pour dénoncer un surcroît de travail lié aux professions de foi. Oui, ces fameux plis des candidats au fauteuil de l'Assemblée que vous recevez dans vos boîtes à lettres. Les employés exigent une reconnaissance financière, selon la CGT. La CGT de la Poste, évidemment, qui dénonce que la direction leur refait le même schéma que pour les européennes, c'est-à-dire rien ou si peu en heures supplémentaires. Quelques piquets de grève se sont organisé un peu partout, sur certains centres en tout cas, le mouvement pourrait être reconduit si, évidemment, on n'arrive pas au but. À Lille, le 26 juin, avec l'entreprise Exit, société de production de batteries industrielles, EFO menait la bataille, c'est le syndicat majoritaire. Alors avec blocage des entrées et sorties des véhicules, la direction a, elle, été contrainte à rester à la porte. Grève pour une durée indéterminée, donc reconductible, ce qui a provoqué, évidemment, ce qui a provoqué la colère. Pardon, il faudrait peut-être que je me calme un petit peu, moi. Ce qui a provoqué donc ce courroux, cette colère, ces 3 années de chauffage partiel et un avenir que cette direction cache. Et elle cache quoi ? Une crainte d'un saucissonnage du groupe et voire plus. Et la disparition de la production de batteries à Lille. Deux autres sites de Paris à Paris et à Herblay en Ile-de-France étaient également visés et touchés. Pithiviers-le-Vieil, c'est dans le Loiret, c'était le 25-06, avec un mouvement social chez Cristal, usine sucrière du groupe Cristal Union. La cinquantaine de salariés devant l'usine avec la CGT sur un effectif de 120 personnes pour exiger plus de reconnaissance financière. C'est une colère au niveau national chez Cristal Union dont le bénéfice se monte à quelques 400 millions d'euros en excédent brut selon la CGT et des promesses non tenues de partage. Ça met évidemment les abeilles dans le pot de miel, mais les capitalistes ont la clé du pot. Enfin, je dirais qu'aujourd'hui, on parle plutôt de code d'ouverture. Ajoutons à la CGT le syndicat EFO et CGC, et également la CFDT pour de meilleurs salaires, prime à hauteur des produits, c'est-à-dire des bénéfices de l'entreprise. La Hague, maintenant, c'est dans la Manche, avec 60 salariés en grève chez Orano DEM, c'est une usine de retraitement du combustible nucléaire, caca. Donc le 24 juin, c'était une colère contre la possible disparition de filiales. Donc Orano est quand même une société qui est numéro un mondial dans le domaine et leader dans le recyclage des combustibles usés de toute la planète. On aimerait bien habiter dans la Manche, ça doit être brillant là-bas. On se sent donc quelqu'un, nous Français, après un truc comme ça, non?
Oui, carrément.
Toute la planète, dis-donc, on dépose... Et puis pour terminer, je vais terminer quand même.
Vas-y, il y a le temps. Voilà. Pas de souci.
Avec Poitiers dans la Vienne, le 25 juin, avec les salariés de Urbazer qui étaient en grève. Ils collectent les déchets pour le Grand Poitiers. 10 collectes étaient annulées sur 14 le matin. Mouvement qui s'est intensifié l'après-midi. Le CSE conteste les conditions de travail, notamment en période de canicule. Dénonce aussi le manque de communication avec le Grand Poitiers. Aggrave la situation. Comme par exemple une réunion entre les directions d'Urbazer et du Grand Poitiers sans le CSE. Donc la grève a été du coup reconduite le 26 juin. Et pour finalement terminer cette soirée, eh ben, je vous dirais qu'on ira au Mans, dans la Sarthe, le 18 juin. Bon, je reviens un petit peu sur les derniers jours, qui concernent les employés de Sarthe Habitat, de différentes agences du premier bailleur du département, qui se sont mobilisés contre les abus, surtout du temps de travail en augmentation constante. Donc, ras la casquette, la direction a proposé 2% de mieux sur les salaire. La grève se tenait au siège du Mans et sur les agences du département de la Sarthe. C'est la CFDT et la CGT qui ont décidé, donc près de 130 personnes quand même à suivre le mot d'ordre, 40% des salariés pour un plan de réorganisation, de négociation sur la question principale. Donc, évidemment, que je viens de citer. Et Sarthe, pour terminer, Sarthe Habitat est un organisme du conseil départemental de la Sarthe qui a été créé en 1949. Voilà.
Donc voilà, et juste pour finir, un petit conseil d'article, si vous allez sur le site des deux bunkers, D-E-B-U-N-K-E-R-S, plein de petits articles en ce moment sur la situation politique en France, et notamment la reprise sous forme de petits visuels ou de textes des 14 signes pour reconnaître le fascisme d'Umberto Eco. Je vous le conseille, voilà, ça reprend un peu tout, et ça peut montrer quelques signes quand même, malheureusement, qu'on est bientôt. On va terminer l'émission là-dessus. On vous souhaite du coup une bonne fin de semaine. À surveiller du coup pour mercredi prochain, si jamais voilà, on peut, on se retrouvera peut-être du coup mercredi prochain. Je suis sûr de quoi ?
D'une bonne fin de semaine.
Oui, bah en tout cas du mieux possible. Il y a un gros rassemblement en ce moment sur Paris, en tout cas place de la République.